vous appellerez Ronald Frank et votre famille sera Ronald. Bien, maître. Maintenant, allez méditer dans votre cellule. Vous savez que depuis quelque temps, nous avons un nouvel élu. Priez pour lui. Allez. La réunion avec le ministre des Affaires étrangères s'est bien passée et a promis qu'il dirait aux ambassadeurs d'aider les nouveaux explorateurs du XXe siècle et que l'État donnerait une aide pour les nouvelles sciences. En France, il y a plus en plus de crimes inexpliqués, étranges. La police, par manque de moyens, ne peut pas vraiment enquêter. Et puis, il y a tant de choses à enquêter. Trafic d'armes, de drogue, vol de toutes sortes, prostitution, escroquerie. Les enquêtes de ces crimes inexpliqués se terminent souvent par des suicides collectifs dû à la misère ou à la peur de l'avenir. Il est vrai que c'est difficile de déceler le vrai du faux suicide. Et puis, il faut bien en conclure de ces enquêtes. Donc, on conclut que c'était des suicides dus à la pauvreté. Gallien a son bureau parisien où il est avec son directeur des responsables de la fabrication des transports, M. Tancier, MR. Gallien lui dit « Je ne comprends pas pourquoi vous voulez vous lancer dans la fabrication de gros navires de voyageurs. Ce genre de voyage est dépassé. » MR lui dit « Vous ne croyez pas cela. Les croisières sont à la mode. » Gallien lui dit « Petite croisière sur la Méditerranée pour les clubs du troisième âge. »
Oui,
Mais si l'on fait des croisières plus longues et plus loin, cela marchera aussi. Vous n'allez pas me dire tout de même que les gens vont prendre le bateau pour aller en Amérique ? Et Mère lui dit, si j'en suis tout à fait certain, les gens en ont assez de voyager en n'ont rien de temps. Ils veulent vraiment voyager et prendre leur temps. Galien hausse les épaules. Les vieux, oui, et aussi les autres. D'être dans un navire, c'est une façon comme une autre de passer ses vacances. Et mieux, c'est mieux même que d'être dans un club de vacances ou à l'hôtel. Et le bateau apportera tout le confort et même le luxe. Les gens rêvent de luxe. Ils sont prêts à économiser pour vivre quelques semaines dans un cadre luxueux. Ça donne l'illusion d'être quelqu'un, d'être servi. Et en plus, il y a la mer. Le bateau apporte tout ça. C'est guère plus cher que de passer un mois à l'hôtel. Et en plus, on voyage en restant sur place. C'est l'hôtel et c'est-à-dire le luxe qui vous suit de partout. Je l'arrange tout le monde. Ceux qui aiment voyager, voyagent, et ceux qui aiment rester sur place ont l'impression de ne pas bouger. La femme aime voyager, le mari aime rester tranquillement dans son coin. Le bateau arrange le couple. Galien lui dit, bon, vous avez raison, vous pouvez garder tous ces arguments pour la publicité. Mais je suis contre que vous fassiez d'énormes bateaux de 1500 à 2000 passagers. C'est beaucoup trop, ils n'arriveront jamais à les remplir. Faites des bateaux de 600 à 800 personnes, c'est bien suffisant. Et Mère lui dit, plus le bateau est grand, plus il y a de monde. Plus les frais sont amortis et le prix des places diminue. À 600 à 800 personnes, le prix par passager va dépasser ce que le français plus que moyen peut se permettre. Gaïa lui dit, et si vous ne remplissez pas le bateau de 2000 places, nous pourrons trouver une formule. Le bateau ne partira que s'il est rempli, disons, à 80%. Autrement, il restera à quai et l'on remboursera les passagers. Gaïa lui demande, et l'équipage ? Embauché au voyage, sur le contrat de travail à la traversée. On spéculera. Pas de voyage, pas d'embauche. Et si le bateau ne part jamais, ou peu, les années ou les fois où il ne partira pas, on en fera un hôtel à quai, au prix Hôtel Palace. Voilà, je ne peux vous rien dire de plus, monsieur le président. À vous de décider. Galien lui dit, je vois que vous avez pensé à tout. Je vous donne le feu vert pour un bateau seulement. Après, nous verrons. Bien, monsieur le président, celui pour l'Amérique du Nord, comment l'appellerons-nous ? Lemar réfléchit et lui dit, le transgène Gap. Merci, vous en serez le parrain. Merci, vous avez trop de choses à me dire ? Non. Bien, faites venir monsieur Danfort que je signe. Merci, monsieur le président.
Il se lève et sort du bureau. On frappe à la porte. Entrez. Entre, monsieur Danfort.
Il s'est approché du bureau avec la pochette en cuir vert.
Voici le papier, monsieur le président.
Merci. Galien ouvre la pochette, feuillette le dossier.
J'ai tout lu, tout est en ordre.
Merci. Galien va à la dernière page où est accroché le chèque. Il le signe, ferme la pochette et l'attend.
Merci, monsieur le président.
Et Danfort sort du bureau.
Dans un restaurant parisien, Madame Dutour, responsable chimie, et Monsieur Ricard, responsable biotech, déjeunent tout en parlant. Madame Dutour lui dit : J'ai accepté votre invitation, quoique nous soyons concurrents. Monsieur Ricard lui dit : Pas du tout, complémentaire. Oui, mais lorsque vous avez besoin d'un budget supplémentaire, on le prend chez nous. Monsieur Ricain lui dit, je n'y suis pour rien. C'est ce Danfort qui fait ce qu'il veut, celui-là. Il faudra d'ailleurs que j'en parle à notre président. Elle lui demande, au fait, comment le trouvez-vous? Pas mal du tout. Intelligent, il approuve toutes nos idées. Et il veut même visiter nos laboratoires. Vous avez dit oui? Je ne pouvais pas dire autrement, mais je serai prévenu avant. Vous pensez bien, avec toutes nos petites choses. Oui, je m'imagine la chose, ce doit être dégoûtant. Il paraît que vous avez même des cadavres. Qui vous a dit ça? Petit Jean. Il est jaloux, parce qu'on lui a pris certains projets ordinateurs. Mais il doit comprendre que tout ce qui est bio nous incombe. Du moment que nous mettons du vivant dans la machine, c'est notre affaire. Vous ne mangez pas vos fruits de mer? Oui, bien sûr, mais chaque fois que je mange quelque chose, je pense à vous et je me demande ce que je mange, si ce n'est pas du plastique. Vous avez fait manger quoi à ces pauvres bêtes?
Sûrement du pétrole, pour qu'ils soient immunisés du pétrole. On en fait des consommateurs et ne peut manger que ça.
C'est dégoûtant.
Non, c'est épatant. Elle nettoie la mer en se nourrissant.
Et nous alors?
L'homme a un estomac de fer. Il peut manger tout, sauf de l'arsenic. Quoique,
je n'ai plus faim.
Ma pauvre petite.
Chaque fois que je suis avec vous, vous m'apprenez des horreurs.
Cette fois non, j'ai même pensé à vous. Vous faites toujours des insecticides.
Oui, et même de plus en plus. Les insectes deviennent de plus en plus coriaces.
Plus pour longtemps. Écoutez-moi bien. Nous allons créer des produits alimentaires qui produisent lui-même son insecticide, grâce à l'ADN. Ce qui fait que le blé, par exemple, ne sera plus attaqué par les insectes et le paysan n'aura plus besoin de désinsectiser. Je vais introduire dans chaque grain de blé la formule chimique qui va produire l'insecticide.
Elle lui dit, mais vous m'annoncez ma ruine?
Non, pas du tout. J'ai besoin, c'est d'introduire dans chaque grain de blé l'insecticide que vous allez me fournir. Le grain de blé sera valable que quelques mois. Après, s'il n'est pas planté, il faut le jeter et en acheter d'autres. Et nous mettrons dans la plante un produit qui fera que la terre qui a reçu ces grains ne peut que recevoir que ceux-là. Les autres mourront, car la terre sera empoisonnée. Et le contrepoison ne se trouve que dans le grain à nous et pas chez les concurrents. Bien entendu, nous ne dirons pas ce genre de choses. Le paysan le verra par lui-même et nous dirons que notre grain à nous sont les meilleurs. Sont de meilleure qualité, qu'ils poussent deux fois plus vite, qu'ils chassent les insectes, qu'ils ont besoin moins d'eau, moins de terre, se protègent aussi du gel, etc., etc. Donc il viendra toujours se fournir chez nous. Et puis, vous nous fournirez un produit chimique pour que l'ADN fasse son travail.
Elle lui demande, est-ce du blé ou des produits chimiques que vont manger les gens?
Ça en aura la forme. Allez, vous êtes d'accord?
Oui.
Bien, n'oubliez pas, c'est d'ajouter à vos produits une marque indélébile et que personne ne peut mettre pour que l'ADN n'accepte que nos produits. Comme cela, pas de concurrence.
Bonne idée. Comme cela, les paysans seront à notre merci. Il suffit qu'ils achètent une fois nos grains pour ne plus pouvoir se passer de nous.
Vous avez parfaitement bien compris, ma chère. Mais il faut faire vite. Les Américains proposent des achats de choses et un champ pris par nos concurrents, c'est un champ pris à vie. Allez, mangez. De toute façon, vous devez vous habituer à manger des choses qui n'ont pas ce que l'on croit.
Pensez-vous pas par 3 heures sur l'oreille, ils sont 76. Tu n'es pas formidable.
76 de qui ?
Galien est à son bureau. On lui amène le courrier.
Voici, monsieur, le courrier. Merci.
La plupart des lettres sont ouvertes. Ce sont des propositions de projets. Il y a une lettre fermée, écrite à la main. Il l'ouvre. Elle est écrite à la main aussi. La lettre On lui dit qu'il est un criminel. Que sa société cache quelque chose de pas très catholique, même d'horrible. Qu'il vole, qu'il enlève des gens, qu'il les tue. Que son empire est une mafia mondiale. Que ce qu'il y a dans le dossier PMDN43, ce n'est rien à côté de ce qu'il fait. Qu'il cherche à dominer la terre et les hommes. Qu'il veut transformer les êtres en esclaves. On lui demande... que sont devenues ses familles. Il y a une liste des gens. À la fin de la lettre, on lui dit que s'il n'arrête pas ses crimes, que son ami Philippe et vous, nous savons que vous êtes parents et amants et que votre cousin, que c'est votre cousin, eh bien, votre amant sera enlevé et tué. Galien est troublé par cette lettre. Téléphone à Danfort pour le faire venir. Dites à M. Danfort que je le vois de suite. Merci. Il n'y a que lui qui puisse me dire s'il y a de vrai dans cette affaire. Entrez. C'est Danfort. Vous désirez, monsieur ? J'ai reçu cette lettre. Danfort s'approche. Il prend la lettre et la lit. Après l'avoir lu, il dit : un fou ou quelqu'un qui cherche à vous faire peur. Ce n'est rien. Vous en êtes sûr ? Et ces noms, des noms pris au hasard, ne vous faites pas de soucis. Nous sommes des gens honnêtes. Ce que nous faisons ne nuit à personne. Bien, puisque vous le dites, merci.
Danfort se retire.
Je vais la secrétaire de direction.
Et lui dit, toutes les lettres du président doivent être ouvertes. Et toutes, même celles qui paraissent personnelles. Vous devez lui éviter tout trouble et qu'il ne se pose pas de questions sur la société.
Bien, monsieur, et celle que je dois lui remettre, qui semble privée,
après les avoir lues, et si elles peuvent être lues, vous les recollerez et le lui donnerez une fois la colle séchée.
Bien, monsieur.
Pendant ce temps, dans son bureau, Galien réfléchit. Il se dit « Il est vrai que je ne sais pas tout ce qui se passe dans ces entreprises et que je ne connais rien à toutes ces choses. Peut-être qu'il s'y passe des choses peu recommandables. Comment savoir ? Il faut que je me renseigne mieux. Et puis, je dois tout visiter. » En attendant, il aimerait savoir de suite. Une idée lui vient. Si, comme Danfort le dit, la personne a mis des noms comme ça, au hasard, il doit pouvoir le savoir en téléphonant à ces personnes. Et si ces personnes me répondent, c'est qu'elles sont en vie et que la lettre a menti. Il prend le téléphone et demande au renseignement le nom de la personne avec l'adresse. On lui dit qu'il n'y a plus d'abonnés à ce numéro. Il en fait d'autres. C'est la même chose. 20, 30 personnes. C'est pareil. Il arrête ses recherches et se dit « La lettre a dû dire vrai. » À moins qu'elle se soit renseignée pour donner que des noms de vieux abonnés. Comment savoir ? Choisissons un nom au hasard et allons enquêter sur le lieu. Il choisit un nom. Il choisit un nom où la personne n'habite pas trop loin, à Versailles. Ça peut aller, oui.
Et il sort de son bureau.
Sa secrétaire lui demande « Monsieur, vous désirez ?»« Rien, je sors un moment. J'ai à faire quelque chose. »« On peut vous l'apporter si vous voulez. »« Non, il n'y a que moi qui peux aller où je dois aller. »
Elle le regarde effarée.
« C'est la première fois, monsieur, qu'un président sort seul pour faire quelque chose. »
Galien lui dit agacé. « Je vais tirer un coup. Ça vous va ?»«
Oh !»
Et elle se rassoit.
Galien se sauve et se dit. « C'est agaçant de ne pouvoir rien faire sans être entouré. Elle va sûrement prévenir Danfort. Je m'en moque. Je ne suis plus un enfant qui doit demander la permission pour sortir. »
Une fois dehors, il tombe sur le chauffeur.
« Monsieur, non, je prends un taxi !»
Le chauffeur est ahuri. Galien s'éloigne. Il aile un taxi. Un taxi s'arrête. Il lui donne l'adresse.
Thank you.
Une demi-heure plus tard, il est sur les lieux. Juste où il veut payer le taxi, il s'aperçoit qu'il n'a ni argent liquide, ni carte, ni chéquier. C'est vrai, j'avais complètement oublié que c'est Danfort qui a le chéquier et tout. Et moi, je n'ai pas d'argent. Ce qui fait que je suis à la merci de Danfort. Il dit au chauffeur, je ne peux pas vous payer.
Mais cela ne me va pas du tout.
Galien lui dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Attendez-moi. Nous reviendrons à Paris et mon homme d'affaires vous payera.
D'accord. Mais ne vous ennuyez pas. Je ne suis pas sûr. Je ne vous fais pas confiance.
Et voilà Galien escorté du chauffeur taxi. Il se dit, il faut toujours que je sois escorté par quelqu'un. La rue est une petite rue faite de petites maisons individuelles. Il va au numéro et voit que la maison a été brûlée, incendiée. Il ne reste que des ruines.
Merde !
Le chauffeur lui demande,
qu'est-ce qu'on fait ?
Je vais me renseigner. Et il va sonner à la villa d'à côté. Lui a ouvert une petite femme maigre aux cheveux blancs habillée d'une robe verte.
Vous désirez, monsieur ?
Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans la maison d'à côté. Elle lui répond.
M'en parlez pas. Une nuit, elle a pris feu. Pompiers, policiers, durant toute la nuit. Les occupants sont morts brûlés. La police pense que c'est un suicide collectif.
Galien demande.
Ils avaient des ennuis ?
Non, parce que je chasse. Le mari avait un très bon métier. Il était ingénieur dans l'agroalimentaire. Sa femme, professeure de sciences physiques. Et les enfants, très bien. Ils semblaient heureux. La police pense que le père avait dû devenir fou.
Avant,
ben, avait-il de la famille ?
Je ne sais pas.
Vous n'avez rien remarqué d'anormal ces derniers temps ?
Si. J'ai oublié. Si, je crois. Voilà. Comme vous pouvez voir, on voit de fenêtre à fenêtre. J'avais remarqué que ces derniers temps, la mère préparait ses valises, comme s'ils allaient faire un long voyage.
Vous lui avez demandé ?
Non. Avez-vous quelque chose qui pourrait m'instruire ?
Non, mais qui êtes-vous ?
Un ami.
Non, rien. Au revoir, monsieur.
Et elle ferme sa porte.
Galien dit au chauffeur,
on peut partir.
Bien, mais je vous informe, c'est que j'ai laissé tourner le compteur.
Une fois arrivé, il dit au chauffeur,
venez avec moi, je vais vous faire payer.
Je vous préviens, ça fait une grosse somme.
Ça n'a pas d'importance, vous aurez en plus un bon pourboire.
Et ils entrent dans l'immeuble.
«
arrivé à son étage, il dit à sa secrétaire « Dites à M. Danfort de payer cette personne et de lui donner un bon pourboire. Bien, monsieur. »
Et il rentre dans son bureau pour réfléchir. On frappe à la porte. Entrez. C'est Monsieur Danfort.
Vous désirez, Monsieur Danfort ?
Monsieur, je suis surpris que vous soyez parti comme ça et que vous n'ayez pas pris notre chauffeur.
Je suis libre.
Oui, monsieur.
Et je suis votre président.
Oui, monsieur.
Alors ?
Rien, monsieur.
Par contre, moi j'aimerais c'est avoir des explications.
Je vous écoute.
J'ai fait une petite enquête. Toutes les personnes de la lettre ont disparu, ou plutôt sont plus sur l'annuaire du téléphone.
L'enfant sourit et lui dit « Elles ont pu s'abonner à des compagnies privées. »
Je me suis rendu au domicile d'une de ces personnes et leurs maisons ont brûlé avec eux.
Pure coïncidence. Si vous avez besoin de faire des enquêtes, nous avons un service pour cela. C'est tout?
Oui.
Ne vous faites pas de soucis. Vous posez pas de questions. Il n'y a pas de mystère. Nous sommes pas dans un roman de 4 sous ou à l'émission L'écran radiophonique, mais dans la compagnie Jeune Tout. Des traqués, il y en a toujours un qui vous écrira pour vous mettre le doute ou vous faire une farce. Ne faites pas attention.
Bien. Vous pouvez disposer.
Et Danfort se retire.
Galien réfléchit et se souvient de ce qu'il y a décrit sur la lettre.
Philippe est en danger.
Vite. Il fait le numéro de Philippe. Allô ? Je suis Galien. Puis-je parler à Philippe, s'il vous plaît ? Merci. Allô, Philippe ? C'est Galien. Comment vas-tu ? Je te téléphone. C'est pour te dire que j'ai reçu une lettre de menace. Et qu'ils me disent qu'on allait te faire du mal. Alors fais attention à toi. Non, ce n'est pas une blague. Je t'assure que c'est sérieux. C'est pour me punir. Parce que, soi-disant, je fais des choses pas très bien dans mon entreprise. J'ai fait une petite enquête. Je crois que c'est très sérieux. Ils connaissent nos relations. Je suis très surveillé. Je ne peux pas pour le moment venir, mais prends soin de toi. Fais très attention. Et s'il se passe quelque chose, préviens-moi. Bien, je t'embrasse. À bientôt. Et désire Philippe. Il veut le voir, le sentir, le toucher. Cela lui donne envie de se masturber. Il n'ose pas lui écrire. Son désir de peur que sa lettre soit lue par une autre personne, ni lui téléphoner. Il ne peut pas plus non plus constamment demander à aller à Lyon. Sous quel prétexte? Des fois, son plaisir physique est tellement grand qu'il regarde les jeunes gens et les désire, mais ne fait rien. Les jours passent. Philippe ne semble pas être menacé, mais Galien reste sur ses gardes. Il n'a pas confiance à ce que lui disent ses présidents. Un jour, il reçoit une lettre d'une femme, Madame de Saint-Passant, qui veut l'inviter pour lui demander un service. J'aimerais que M. Danfort vienne au bureau, à mon bureau, s'il vous plaît. Merci. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.